Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette première rencontre. Je crois que comme d'autres invités, comme d'autres intervenants, nous ouvrons, je pense, le festival de Saint-Malo, au moins qu'il y ait eu des petites choses ce matin, je crois pas. Enfin, on est au tout début du festival et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes heureux, comme moi, de commencer ce festival avec Pierre Dubois. Donc bonjour,
Pierre
Dubois. Bonjour. Pierre Dubois, vous êtes un habitué de Saint-Malo ? Parce que les 25 ans qu'on fête aujourd'hui, vous en êtes à combien d'années de Saint-Malo ? Est-ce que vous étiez là dès les premiers ?
Oh, dès le premier, oui. Ben, c'est-à-dire que Michel Lebris, c'est lui qui a été mon directeur à France 3. Ça s'est fait de façon assez amusante. C'est que le directeur de France 3 s'appelait Jean-Paul Guguin. Et c'était il était breton et c'est très rare à France 3 en général. On en voit dans les réserves indiennes que nous sommes par rapport à Paris, des spécialistes des affaires indiennes qui sont parisiens et qui veulent en général, ils arrivent dans les régions pour dépoussiérer, disent-ils, c'est un peu comme des jésuites qui allaient donc pour amener la bonne parole dans des tribus. Donc on avait habituellement, j'avais été dans d'autres régions, un officier moulu de West Point qui venait nous dire qu'il fallait couper les cheveux, qu'il fallait les tatouages, les menhirs, il fallait les enlever, ne plus parler ceci, ne plus parler cela. Une seule pensée, la parisienne estampillée, enfin, etc., etc. Donc là, ils avaient fait une erreur, ils avaient mis Guguin, directeur, qui était vraiment le seigneur du château, qui était une espèce de roi Arthur, et pour bien faire, il s'est dit, ah oui, c'est vrai, il est de gauche, celui-là, donc on va mettre Lebris, mais on va vite le... Et en fait, ils avaient invité avec le roi Arthur, ils avaient pris Merlin, quoi, en fait. Mais sans le savoir. Donc, Lebris est arrivé, qui était une forme de Merlin, qui a repris complètement la télé... Et donc il a amené ses troupes, il a sonné dans son olifant, et tous les olifantmen de service, on est arrivés, les outlaws, il y en a eu un paquet, il y a eu Christian Roland, Maëd Chantrel maintenant qui est là, il y a eu Jean Edernalier, que Mitterrand a tué. Il y en avait pas mal de trucs qui sont venus fronder dans la forêt de Sherwood, c'est-à-dire de Brocéliande. Et il m'a proposé des émissions. On est devenus très, très vite amis parce que, justement, je crois qu'on parlait un peu le même langage. On aimait,
oui, j'ai envie de dire, voilà. Vous aviez les mêmes références.
Et il parle autant que moi ou je parle autant que lui.
Et vous avez le même imaginaire.
Oui, on a, oui, justement.
En grande partie, en tout
oui,
cas.
Oui, parce qu'on ne se connaissait pas. Et il a fallu d'un repas. Avec Guguin, où on se présentait, Guguin a dit, j'ai attrapé Pierre, je l'ai amené, etc. Mon nouveau directeur des programmes. Et durant le repas, j'avais proposé un film sur Audubon. Et un universitaire avait proposé un autre film sur Audubon, qui était... mille fois, je pense, supérieur au mien dans la recherche du personnage de Dubon. Mais moi, je citais La maîtresse de fer, un film de Gordon Douglas, avec Alan Ladd, où le personnage de Dubon apparaît près de Jim Bowie. Et on s'est mis à parler littérature fantastique, littérature avec un grand L, c'est-à-dire libre, c'est-à-dire sauvage, c'est-à-dire... Et là, on parlait exactement le même langage, ce qui fait qu'il m'a dit, si tu veux, je t'engage. Et je suis arrivé à France 3, Rennes, grâce à lui. Et donc, j'ai participé à toutes ces créations. C'est-à-dire que quand il a décidé de faire ce festival, Étonnant Voyageur, c'était ça, c'est qu'il voulait secouer la littérature à la française, à la Dormesson, donc cette littérature trois pièces cuisine, comme il dit, pour faire entrer une littérature vivante, une littérature qui rêve, une littérature qui pousse les portes de la blanche en disant bah, on va aller la marge existe aussi dans un cahier, il y a la marge et il y a entre les lignes et c'est là peut-être que ça se passe. Et c'est vrai que en littérature j'entendais Pénac dire quelque chose de vachement bien la fois dernière. Il disait, mais ce qui n'enlève rien à la littérature française, il y a la littérature française et la littérature à la française. Et il disait, cette littérature française est écrite par des gens qui lisent et qui en viennent à la littérature par lecture, par culture. Et puis les Américains qui, eux, la vivent. Ils écrivent, mais Melville a écrit Moby Dick, mais il a d'abord été harponneur. Donc il avait certainement en lui ce génie de l'écriture, etc. Mais il avait été harponneur. Donc il y a une autre manière d'écrire qui est plus libre, qui donne un phrasé, qui donne une littérature où on rentre tout de suite dans le feu d'action pour dire « c'est pas mon cas ». Hein, j'avoue que j'aime bien moi les fioritures racontées, la magie du mot, etc. Néanmoins, c'est vrai qu'ils ont amené ils ont amené le vent, ils ont amené le sauvage dans la littérature. Et effectivement, quand il a parlé de ce projet, j'ai été tout de suite dedans. Et ce projet était en parallèle aussi avec le château de Compère, avec le centre de l'imaginaire arthurien, dont s'occupe Claudine Glow, là, que tu vas voir
que
et revoir.
Voilà, au téléphone voilà. Pour préparer cette rencontre.
Voilà. Et au départ, ce centre de l'imaginaire arthurien, Michel en faisait aussi partie.
D'accord.
Hein, il y avait tout un nœud comme ça on avait planté quelque chose, quoi, si tu veux, avec toutes ces ramifications aujourd'hui, mais sans savoir qu'il allait avoir des surgeons, que ça allait vraiment prendre.
Tu vois, c'est et ça, ça allait donner l'édition, voilà, la 25e édition, oui, voilà, de Saint-Malo, oui, oui, oui. Et c'est 60 000 visiteurs, voilà, prévus.
C'était pas évident, quoi. C'était
vraiment... Est-ce qu'à cette époque, donc, quand vous avez rencontré Michel Lebris, vous aviez déjà commencé à écrire ou publier, en tout cas?
Oui. J'ai publié très, très, très vite. Et puis j'écrivais aussi et je racontais pour la radio, pour la télé, pour le... Donc oui, j'ai toujours écrit, quoi. J'ai toujours écrit. Et il connaissait, il aimait bien ce que j'écrivais, quoi. Ça l'amusait.
Alors justement, donc je crois que vous avez toujours, enfin, il y a eu quelques excursions, enfin, dans des univers un petit peu différents, mais vous creusez quand même toujours
un sillon, hein.
Voilà, le même sillon. Et le dernier opus, à moins que je me trompe, c'est l'effroyable encyclopédie des revenants, publié aux éditions Glénat. Alors l'effroyable encyclopédie des revenants, d'abord, je crois que c'est le deuxième, enfin, ça fait suite à un premier volume consacré aux fantômes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous l'expliquez dans le livre, hein, mais on est là évidemment pour en parler un petit peu, la différence entre les fantômes et les revenants?
Oui, c'est-à-dire que le fantôme, est, Bachelard disait que le fantôme, c'est une fée incomplète, quelque part. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, quelque part. Le fantôme, c'est ça peut être une musique, c'est une âme qui revient, ou une présence, ou une pensée. C'est quelque chose de poétique, qui peut être effrayant aussi, mais qui n'a pas véritablement de corps. Ça peut être donc un parfum, une musique, une présence. On a tous pratiquement, je pense, Même mon toubib qui est pourtant rationaliste à crever, malgré tout, quand il rentrait chez moi, il avait la trouille. Parce qu'il sentait quelque chose qui le dérangeait. Comme on le dit, comme disait, je ne sais plus, la marquise ou la comtesse de, je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. Et on a tous quand même, quand on perd quelqu'un, l'impression qu'il est encore là. Et il y a toujours des signes, des bruits, des impressions, des parfums, des odeurs. C'est le fantôme. Ensuite, il y a le revenant. Alors, le revenant, lui, c'est du brut de fonderie. C'est-à-dire que vraiment, c'est avant que le fantôme n'apparaisse, le revenant était déjà là. Il faut dire que la pensée des hommes du Moyen-Âge, le rêve était réel. C'est un état d'esprit. Donc, quelqu'un qui était mal enterré ou qui voulait se venger ou qui était amoureux, qui aimait, qui n'avait pas terminé sa vie, qui n'avait pas terminé son destin, revenait encore, encore et encore. Il revenait encore CERPS et encore une fois. Et donc cela, ces revenants sont moins avenants que le fantôme dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut. Tandis que le revenant, lui...
Il a un problème, le revenant.
Il a un problème, oui, et il le fait entendre. Et au Moyen-Âge, donc, on parle vraiment de revenant. Au Moyen-Âge, Le Couteux a écrit un bouquin très, très, très intéressant. C'est un prof de la Sorbonne qui s'est penché sur les revenants. Dans les vieux textes, ce revenant, bien qu'il soit en chair et en os, il revient. On ne met pas en doute la présence du revenant. Une femme qui a péché avec son amant, qui a quelque chose à se reprocher, son mari mort. Vient frapper à la porte, monte les escaliers et se couche glacé et froid dans son suaire près d'elle. Et ensuite, après, il y a le spectre, parce que peut-être que si j'ai le temps, je ferai le spectre.
Troisième volume.
Le troisième volume, le spectre, lui, est toujours effrayant. C'est plus un symbole, il est là vraiment par la voix. Il y a le spectre de la peste, le spectre. Là, c'est vraiment le d'ailleurs, comment on dit, le spectre scientifiquement est raconté par la lumière, par le spectre de la lumière. C'est une vision, c'est une apparition, mais il est assez haineux, il est assez effrayant, il est toujours effrayant. Le revenant, il est malheureux. Le revenant est
oui,
malheureux.
Il est effrayant parce qu'il est malheureux, voilà. Alors que le spectre est effrayant tout court.
Il est effrayant tout court, oui, voilà. Tandis que le fantôme, non, le fantôme, c'est une âme en peine. Mais en plus, tout ça, j'avais écrit les lutins, disons que j'avais écrit une encyclopédie sur les lutins, sont les esprits de la terre. Quand j'étais jeune, le lutin et lutine, hein, le lutin lutine, le lutine, même c'est un petit esprit comme ça, narquois, espiègle, qui vient, c'est un esprit familier. Après j'avais écrit un bouquin sur les fées, en âge justement d'essayer de les chercher, ces fées. Et de les aimer, hélas, d'en arriver aux elfes, où là, justement, avec tant de déceptions, on devient elfe, on préfère s'en aller de l'autre côté. Et avec le temps, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur les fantômes pour avoir des copains de l'autre côté en arrivant. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe, que je pouvais revenir aussi. Donc j'ai fait les revenants. Et le spectre, s'il continue à faire des horreurs comme ça sur Terre, je serais très content d'être spectre pour aller les effrayer, tous ces empaffés qui prennent notre pouvoir.
Alors, les fantômes et les revenants, dans cette effroyable encyclopédie des revenants, je trouve que c'est assez parlant, vous les localisez à des endroits différents de la maison. Il y en a un au grenier et d'autres à la cave. Alors, est-ce que vous pouvez nous...
Alors,
vous expliquez.
Mais c'est bien que le fantôme et le revenant font partie, malgré tout, de la maison. Bachelard, avec ses bouquins merveilleux, extraordinaires, sur les éléments, l'eau, la terre, le feu, etc., etc., parle réellement de l'esprit de ces matières, de ces éléments. D'ailleurs, les fées, les elfes et tout ça, c'est l'esprit du feu, ce sont les salamandres, l'esprit de l'eau, ce sont les ondines, les ondins, les sirènes, etc. L'esprit de l'air, ce sont les elfes, les sylphes, etc. Et les esprits de la terre, les gnomes, les lutins, voilà. Et c'est pareil avec le monde des fantômes. Et ce sont les maisons. Et dans la maison, autrefois, par exemple, lorsqu'on construisait une maison, tout à fait aux origines, est-ce qu'on pouvait construire une maison d'abord là, à tel endroit ? Donc, on fichait un bâton dans le terrain. On demandait l'autorisation au genius loci, à l'esprit des lieux, si on avait le droit de s'il n'y avait pas en dessous des nains, des lutins, des elfes, c'était pas un territoire sacré, un territoire de on offrait des cadeaux, et le lendemain matin, si le bout de bois était toujours là, on construisait. Si le bout de bois était brisé et les cadeaux avaient été piétinés, il ne fallait pas construire. Maintenant, on s'en fout complètement, mais enfin, néanmoins, à cette époque-là, non. Si on construisait la maison, à l'intérieur, il y avait donc tout ce monde. On était accepté par tout ce monde des esprits, des morts qui étaient enterrés là. Et après, ses propres ancêtres qui venaient là. La maison, donc, était vivante. Il y avait des rituels pour la maison. Il y avait vraiment. On fleurissait la maison. À la Noël, on mettait des sapins, on mettait des branches de sapin. On continuait à le faire. Néanmoins, ça avait une signification. On connaissait la signification. C'est qu'on mettait dans la maison, c'était le solstice d'hiver, on mettait une bûche, on allait chercher une bûche. C'est-à-dire que le soleil revenait, donnait sa lumière, sa chaleur. Donc on lui rendait hommage, on faisait un feu à l'intérieur de la maison. On amenait la lumière aussi, le feu à l'intérieur de la maison. Et la bûche était sacrée, c'est-à-dire que les esprits, les morts quoi, de la famille, allaient pouvoir, la nuit, se réchauffer avec cette bûche. Et il ne fallait pas s'asseoir dessus, parce que justement, elle était sacrée. Et si on s'asseyait dessus, on avait des furoncles sur les fesses. Ce qui est très gênant. Et donc, il y avait un tas de rituels comme ça. Et pourquoi parce que c'était le symbole des feuilles qui ne meurent pas. Le rouge, la couleur du sang, il y a toujours le rouge et le vert. Donc, ces esprits sont dans la maison. Et par exemple, le grenier, un vieux mot pour désigner le grenier autrefois, c'était la sylphérie. La sylphérie, où vivent les sylphes. Hein, le sylphe, c'est-à-dire que les esprits qui sont beaucoup plus près des esprits de l'air sont dans le grenier. Parce que justement, ils peuvent s'échapper par la lucarne, vivre là-dedans. Et par contre, dans la cave, il y avait tous les êtres, les crapoussins cropignotants, tous les êtres un petit peu sombres et de la cave, les gnomes, pour les arabes, le hawawa, pour tout se passe dans la cave. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus trop de caves, mais quand on descendait à la cave enfant, on les sentait. Et d'ailleurs, Bachelard, là aussi, a de très jolies images, surtout que quand on descendait à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, on descendait donc avec le rat de cave, c'est-à-dire une petite mèche en suif auquel on mettait la lumière, et on descendait, t'imagines, dans l'abîme, dans l'obscur, là en dessous, après c'est l'enfer, hein, c'est là que ça se passe. Quoi, toutes les dimensions de l'imaginaire de l'enfant, quand on allait à la cave, moi je sais très bien que je descendais prudemment, et quand je remontais, ils étaient tous derrière moi. Je montais très vite les escaliers. Et puis après, tu essayes de trouver une harmonie avec ceux de la cave, Et là, tout se passe bien. Mais là, ça touche à la magie, à la pensée magique, et là, c'est autre chose.
Alors, pour évidemment cette effroyable encyclopédie des revenants, vous n'avez pas travaillé seul parce que c'est un livre illustré. Comment vous travaillez entre le texte, les illustrations? Est-ce que vous écrivez d'abord des textes et ensuite vous les faites illustrer? Ou dans quel sens ça se passe? Comment collaborez-vous pour ce genre de livre, en tout cas, qui est aussi graphique que narratif?
Absolument. C'est alors voilà justement si tu veux, c'est à la fois pour un auteur c'est à la fois bien et moins bien, c'est-à-dire que quand j'avais fait mes faits parce que c'est tout est lié hein, je reviens aux faits mais si tu veux, c'est tout est lié, c'est-à-dire que je voulais vraiment raconter tous ces personnages, tout cet au-delà qui était qu'on avait oublié quand j'ai commencé à écrire ça, c'était dans les années 70, et les éditeurs ont ri. Pourquoi parler des faits, des lutins, c'est pour les enfants. Donc ils ont tous refusé, aussi bien Gallimard que tout le monde a refusé mon bouquin sur les elfes, les fées, les trucs comme ça. C'était pas intéressant. Et il y a eu les jeux de rôle. On a l'impression que les enfants, comme on ne leur racontait plus d'histoires, comme il n'y avait plus d'histoires de fées ni rien, comme la littérature pour enfants à cette époque-là était reprise par les mêmes qui font l'instruction civique, « Je veux voir qu'une seule tête », etc. « On doit penser ça et ça et ça ». On faisait des bouquins, comment dirais-je, « Ma première cigarette », Jean-Paul épouse Jean-Louis, ils ont réussi d'ailleurs. Enfin, Jean-Paul, j'ai rien, comme m'en fous. Mais enfin, le Jean-Paul épouse Jean-Louis, grand-père meurt, grand-mémé fait du sport. Enfin voilà,
oui, c'était la littérature.
Voilà, mon premier joint, mon premier vol de bécane, le truc comme ça. J'aime Ali. Mais c'était que ça. C'était vraiment, on avait le nez dedans, quoi. On avait le nez dans l'asphalte. Mais où est le rêve là-dedans? Où est Fenimore Cooper? Où est le capitaine Corcoran? Où est Robin des Bois? Or, il y a tout ça dans l'enfance. Il y a Lancelot dans l'enfance, il y a Merlin dans l'enfance. Dans les filles, il y a Guenièvre, il y a Morgane, il y a des fées, il y a des princesses. Et aussi une manière d'être chevalier et de vouloir être chevalier, ou Robin des Bois, qui est un chevalier, et d'ailleurs je préfère lui qu'un autre. Je veux pas le blason de machin, je veux porter mes couleurs. Mais il y a ça, et je préfère les noirs, mais enfin, il y a ça. Et il fallait réveiller tout ça, tout ce patrimoine, tout ce merveilleux. Et donc, enfin, quand est paru les faits de Brian Froud, certains se sont dit, ah bah oui, tiens, et j'ai été voir Webeck, et il a marché. Manque de bol, il fallait un illustrateur. Et à l'époque, au Beaux-Arts, c'est l'art contemporain. C'est le frac, le fascisme réglementé de l'art conceptuel, et c'est ça, j'ai rien contre, mais à condition qu'on accepte l'autre. Maintenant, tu vas aux Beaux-Arts et tu dessines une femme, on te jette des cailloux. On ne dessine plus. Alors, donc, il fallait que je trouve un illustrateur. On l'a cherché partout. J'ai fait les Beaux-Arts. Il y a une nana à qui... Donc, j'étais dans comme on ne trouvait pas d'illustrateur, j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai vu des jeunes. Je racontais mes histoires. Et quand même, un jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir en me disant « Je suis intéressée. J'aime bien les fées, les lutins, etc. Ça va bien ?» Bonjour. Les fées, les lutins, les fées, les lutins et tout et tout. Et elle me dit, je lui ai dit, mais qui tu veux, lequel tu veux dessiner? Et elle m'a dit, le Folletti del Vento, le Folletto del Vento, le lutin du vent. Et je la vois plus. Et un jour, elle arrive avec son carton à dessin. Elle me montre des berlafes, des espèces de des trucs comme ça. Alors, je lui ai bien expliqué, il me faut le Folletto del Vento tel que je l'ai décrit. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est mon approche du vent. Ben, je dis oui, mais enfin, c'est le, si je montre ça, le gars, théoriquement, si tu veux, c'est fait pour une encyclopédie et trucs. Tu l'as, t'as ton bouquin sur le, sous le bras. Tu vas dans la forêt, tu vois un lutin. Tu dis, ah, comment il est, tu regardes. Ah, bah ben oui, il a le bonnet rouge. C'est un bonnet rouge. Tu vois, donc, fais-moi un, quoi. Il y a un grelot et tout. Et elle me dit, mais ça, je sais pas dessiner. Mais j'étais à quelle année de dessin? Ben, en cinquième année. Mais ben, tu travailles sur quoi en ce moment? Le tapioca. Je ne déconne pas. Elle travaillait sur le papier et le tapioca. L'approche du papier et du tapioca. C'est génial. Mais elle ne savait pas dessiner. Elle avait fait les beaux-arts. 50 beaux-arts pour ça. Donc, dis-tu, on a eu un mal de chien pour avoir un... Donc, on avait pris donc, un dessinateur lambda, très bien quand même, de chez Gallimard pour dessiner des lutins et des fées. Et après, maintenant, aujourd'hui, il y en a plein qui dessine des fées, des lutins, etc. Donc, il y a par contre Elian et son épouse, Tic et Tac, qui, eux, sont très imprégnés de Chasse Adams, de Tim Burton, qui avaient lu ce que j'avais fait sur les fées, les lutins, et qui sont venus me voir en disant « Nous, on aime bien le côté un petit peu sombre, un peu macabre, est-ce que tu voudrais pas nous faire écrire les elfes, non pas les elfes justement,
les fantômes.
Ah, j'ai dit mais si, mais alors les fantômes, tu sais, il y a aussi, c'est ce que je vous ai raconté, il y a les fantômes, les revenants, etc. Ils m'ont dit bon non, déjà on ferait les fantômes, ce serait très bien. Et là, si tu veux, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est un bouquin que j'ai écrit pratiquement pour eux. Tu vois.
Les fantômes ou les revenants ?
Les deux.
Les deux. Hein. Oui.
Parce que j'avais envie de faire les fantômes, les revenants, etc. déjà, mais Webeck n'en voulait pas. Mon éditeur des fées, etc., ne voyait un côté sombre chez moi qu'ils n'avaient pas envie de réveiller. Il m'a dit non, reste dans tes fées, tes lutins, c'est très bien comme ça. Tu restes là. Mais je lui titillais aussi par les autres. Et donc là, il me proposait ça. Et là, je les ai laissés faire. Ce qui fait, si tu veux, que tu as raison de dire, tu as mis le doigt dessus, que c'est un bouquin qui est presque plus un objet qu'un texte. Alors, si tu veux, c'est bien, et pour moi, c'est en même temps, c'est que le bouquin est suffisamment attrayant pour qu'on ne lise pas les textes. Tu vois, ou qu'on aille prendre à droite, à gauche, des petits bouts de texte à droite, à gauche, parce que, si tu veux, il se noie, le texte se noie dans un décor, dans un monde,
une atmosphère, comme
dans une atmosphère, dans une crypte, dans une crypte ou un grenier, mais il y a du brouillard, etc. C'est très Tim Burton, oui. Hein, c'est aussi presque un dessin animé, mais... ce que j'ai trouvé formidable dans le travail donc de Tic et Tac, c'est que avec les textes, ils n'ont absolument touché à rien. Alors que Webeck me coupe régulièrement parce que je suis trop long, ceci, etc. dans mon écriture, où eux, ils n'ont touché à rien. Et curieusement, Les phrases qui me tiennent particulièrement à cœur, ça tombe toujours sur les leurs qui retirent du texte pour les mettre en exergue et pour illustrer encore davantage. Il y a comme une forme de magie. Et pourtant, on ne se voit pas. On ne se voit presque pas. Eux font leur bouquin avec mes textes. Et puis là, je théoriquement, peut-être que je ferai les spectres. Mais ce sera encore comme ça. Disons, ils font leur. Ils ont le texte, ils rêvent dessus. Et voilà ce que ça donne. Mais je n'interviens pas.
Donc, mais c'est les textes donc, qui sont premiers quand même.
Les textes sont premiers.
Le livre est écrit entièrement. Voilà. Enfin, là, voilà. C'est particulier. Évidemment, c'est une encyclopédie, donc c'est plus facile à fragmenter.
Voilà. Mais c'est ça. Ils ont les textes et ils rêvent dessus. Qu'avec Webeck, je fais des textes. Et là, il y a une mise en page. Et donc, l'éditeur et le maquettiste coupent pour que le texte rentre dans le truc. Donc, je suis toujours un peu frustré, là. J'avoue que je suis un petit peu frustré parce que je vois par exemple sur le dernier bouquin l'éphéméride que j'ai fait là, le truc, ils m'ont sucré 150 pages quand même. Donc c'est ça. Ah oui, 150 pages, ce qui fait que là je dois faire le deuxième volume. Et je lui dis, bon, tu me donnes le nombre de pages que tu veux, parce que là, surtout que ces 150 pages-là, j'y tenais.
Oui, oui.
Quand tu écris, tu te racontes, tu racontes, surtout là, c'est sur la nature, et donc ton approche de la nature, des saisons, des choses comme ça. Donc le fait de couper, de tailler dedans, ça, c'est comme si on te coupait des doigts, il y a quand même un. Ça fait mal.
Et alors, vous disiez que ce type de travail, ce type de livre, c'était à la fois bien et pas bien,
oui.
Enfin, agréable et un petit peu frustrant aussi, peut-être, parce que justement, c'est moins une longue narration, enfin,
voilà.
Il y a moins de place pour le conte.
C'est-à-dire qu'avec Michel, par exemple, avec Le Brice me dit quand est-ce que tu écris. Donc, bon, j'ai écrit les comptines assassines, les contes de crime, etc., etc., pour me faire du bien, justement, comme il n'y a pas d'image, je peux enfin m'exprimer. disons que je sais que je vais pouvoir raconter l'histoire de bout en bout. Et Michel me dit, mais enfin, pourquoi tu veux toujours faire des albums puisque tu le sais, les éditeurs vont toujours faire des albums. Donc, ils vont toujours plutôt préférer que ce soit le maquettiste qui fasse le bouquin. Ils vont certainement préférer aussi que ce sont les illustrateurs qui vont prendre le dessus. C'est autre chose. Mais les encyclopédies, j'en suis content quand même, parce que il y avait tellement de jeunes qui attendaient ce genre, de leur dire, mais oui, les faits existent, mais oui, les lutins existent, mais oui, entrer dans ce monde-là. Le message passe. Donc, je ne vais pas prendre des caprices d'auteur en disant on m'a enlevé une virgule.
J'aurais aimé écrire davantage.
Voilà, voilà. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant. Et là, je suis encore en train de préparer des albums parce qu'il y a des illustrateurs après qui aiment bien ce que je fais, etc. Donc, je fais un truc avec Brucero. Et Brucero me dit fais-moi un texte. Et Joubert me dit oh, ce serait bien que tu me fasses un texte. Et après, le droit me dit ah, ce serait bien que tu me fasses un texte. Et moi aussi, j'aimerais bien faire quelquefois un bouquin sans image pour pouvoir davantage et savoir que je ne serai pas coupé. Mais par contre, l'important, c'est que le bouquin naisse,
oui.
Et qu'il apporte quand même, parce que on sait quand même
que l'imaginaire de
voilà. D'autant si tu veux que tu as énormément de jeunes qui lisent peu, mais qui connaissent Tim Burton.
Oui.
Parce que, et moins Chasse à dames, c'est dommage. Mais il y a eu les films et tout, donc si tu veux, ils vont être attirés. Ils vont voir là, la couverture est très, très, très amorphe, très. Tu vois, on a l'impression que Price est pas loin, comme Vincent Price et Peter Cushing. Donc, tu vois, c'est un. Il vit encore. Donc ça va attirer un lectorat qui peut-être après vont dire tiens il a écrit tu vois le et aussi pour les elfes et pour les fées comme c'est un tout ils connaissent pas trop les elfes ils connaissent pas trop les fées ils vont si tu veux prendre ces bouquins là et ce qui est important c'est cette espèce de message que j'essaye de dire, de raconter, de crier, de murmurer, de chanter, et avec des intermédiaires, tu vois, voilà quoi. Hein.
Eh ben merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir fait revenir les fées parmi nous.
Et les revenants.
Voilà, et les revenants. Donc je rappelle le titre de l'encyclopédie, c'est l'effroyable encyclopédie des revenants aux éditions Glénat. Merci beaucoup Pierre Dubois.
Mais je vous en prie mon enfant, c'est un réel plaisir.